RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Chez les grandes gueules avec aujourd'hui Jean-Loup Bonamy qui est professeur de philosophie, Sandrine Pégan qui est avocate, Abel Boyi qui est éducateur. C'est la troisième heure des GG qui démarre là maintenant. Tout à l'heure à midi moins 20, on reviendra sur ces municipalités qui mettent en place comme chaque année le fameux arrêté torse nu ou pas torse nu en ville, avec des amendes qui montent jusqu'à 150 €. Alors, on peut comprendre tenue correcte exigée. Après, je sais pas, est-ce qu'on peut faire preuve un peu de discernement? Est-ce qu'on est obligé de coller 150 € d'amende? On en parlera avec vous tout à l'heure à midi moins 20. Le drame Liana, le périscolaire, la pédocriminalité, bon nombre de parents disent les colonies de vacances, fini maintenant pour mes enfants. On a la trouille, on fait pas confiance. Et ça retombe sur des colonies de vacances et des organismes qui sont sérieux, dont les animateurs ont le BAFA. On va dire que c'est pas non plus un totem d'immunité et qu'il ne se passera rien. Mais est-ce que du coup, ces affaires, ça vous a fait renoncer à envoyer vos enfants dans les centres aérés, dans les colonies de vacances? Vous venez en parler en toute franchise avec nous tout à l'heure à 11h20. D'abord, on va parler politique avec notre invité.
RMC, face aux grandes gueules.
Sarah Knafo est avec nous, députée européenne Reconquête. Bonjour Sarah Knafo.
Bonjour à tous.
Première question, est-ce que vous faites ça à pile ou face?
Pile ou face. Entre.
Entre Éric Zemmour et vous, la candidature...
Je me suis dit que vous alliez peut-être me surprendre, mais vous ne m'avez pas surpris.
La candidature à la présidentielle, c'est à pile ou face? C'est le soir, vous en parlez dans la cuisine? Comment vous faites?
Alors, on parle de tout, mais pour ce qui est de cette candidature, moi je souhaite qu'il soit candidat, donc il n'y a pas besoin de tirer à pile ou face.
C'est sûr, ça sera un moins bon candidat quand même.
Ah, pourquoi?
Bah, parce que on a vu en 2022 qu'Éric Zemmour,
va sortir les griffes.
On a vu qu'en 2022 Éric Zemmour
là, c'est pas à pile ou face.
n'était pas très bon dans l'exercice, voilà, que c'était un bon journaliste, un bon polémiste, mais que il était pas bon dans l'exercice politique, voilà, ça a été un échec.
Ça, c'est votre
et
avis.
On a vu, enfin c'est mon analyse, on a vu
c'est
avec les municipales, on a vu avec les municipales à Paris que, indépendamment des points d'accord ou de désaccord qu'on peut avoir, indépendamment du fond, bah vous étiez meilleur en campagne que lui et que vous êtes meilleur pour l'exercice.
Bah écoutez, c'est pas grâce à un compliment que je vais oublier la critique que vous venez de faire sur la campagne de 2022, parce que je suis pas d'accord avec vous. Je pense qu'au contraire, il a surpris tout le monde, notamment par sa capacité d'être un orateur en meeting. On a vu d'autres politiques qui étaient prétendument des politiciens de métier. Valérie Pécresse, j'ai pas envie d'être cruelle ni de rappeler des mauvais souvenirs et de remuer le couteau dans la plaie, mais je pense au contraire que sa campagne de 2022 a énormément fait avancer des sujets, donc ça c'est sur le fond. Que sur la forme, il a été un très bon candidat au contraire, et je disais sur le fond, les sujets qui ont avancé,
ça s'est pas vraiment vu dans les résultats.
7% pour la première fois.
Vous faites un meilleur score à Paris que lui à la présidentielle.
Bah, vous comparez avec une ville, moi je suis très fière de mon score, et encore une fois je vous remercie de me faire des compliments, mais je tiens quand même
j'essaye
à dire,
d'être honnête intellectuellement.
En 2022, faire 7,5% des voix, 2,5 millions d'électeurs pour une toute première candidature, quand la candidate DLR fait 4%, quand la candidate du Parti Socialiste fait 1,87, on peut quand même se dire qu'il y a une réussite. Ensuite, est-ce qu'on l'aurait préféré mieux? Bien sûr. Est-ce que j'aurais préféré qu'on soit d'ores et déjà à la tête de l'État et qu'on mette en œuvre notre programme? C'est l'objectif. Donc je ne vais pas me satisfaire de ce qu'on a fait en 2022. Et évidemment qu'il va falloir faire mieux. Maintenant, qu'est-ce que ça a engendré 2022?
Comment faire mieux?
Qu'est-ce que ça a engendré 2022? On a vu à quel point les idées de droite, nos idées, avaient avancé grâce à cette campagne. Ça, je pense que vous serez d'accord, parfois pour le déplorer, mais en revanche, tout le monde s'accorde à dire, depuis la campagne d'Éric Zemmour en 2022, il y a un avant et un après sur ce qu'on peut dire en France, sur la liberté qui est la nôtre. Aujourd'hui, quand je vois qu'au Parlement européen, peut-être qu'on en reparlera, on a voté pour durcir les conditions d'accueil des migrants, pour faciliter l'expulsion des migrants qui sont sur notre territoire. Et quand je vois que toute la droite...
Avec des centres de rétention extérieurs, notamment.
Exactement. Ok, mais aucun rapport avec Éric Zemmour. Enfin, si les Allemands, si la droite allemande vote pour ça, aucun rapport avec la candidature d'Éric Zemmour.
Là où vous avez raison, c'est que je considère qu'il y a une grande vague occidentale et qu'on en est la représentation française. Je ne dis pas que tout ce qui se passe partout dans le monde est du fait de Reconquête et de notre parti. Il faut bien sûr savoir raison garder. En revanche, je pense qu'on est la représentation française de cette grande vague qu'on voit partout en Europe et plus globalement partout en Occident.
Mais justement, donc Éric Zemmour, il se déclare à quand?
Moi, je ne vais pas déclarer sa candidature à
non,
sa
non,
place.
Je sais pas, mais...
Donc, il se déclarera quand il aura décidé. En revanche, ce que je vous dis, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire un pile ou face.
Ok. Est-ce que vous allez répondre à l'invitation de Laurent Wauquiez, qui va organiser un rassemblement d'Édouard Philippe à Éric Zemmour, un rassemblement des droites pour réfléchir. Est-ce que vous êtes OK avec ça?
Oui, pourquoi pas. Moi, je suis toujours d'accord pour discuter, réfléchir. Je vous dis ce qui s'est passé au Parlement européen. Le vote avec toute la droite, c'est exactement ce que je défends, de dire qu'on est à une situation aujourd'hui tellement grave dans notre pays qu'il va falloir trouver un dénominateur commun entre tous les Français qui partagent ces idées, entre tous les Français qui sont d'accord, par exemple, pour dire qu'il faut en finir avec ce modèle migratoire, en finir avec ce modèle socialiste de toujours augmenter les dépenses publiques et de toujours augmenter les impôts. Si on arrive à trouver un dénominateur commun avec ceux qui le partagent, je suis toujours d'accord pour discuter.
Je voulais connaître votre réaction à l'affaire Liana, ce qu'a dit hier Emmanuel Macron, au moment où on apprenait que l'autopsie révélait que cet enfant avait été violé par Jérôme Barella, puisqu'on a retrouvé des traces d'ADN, on comprend ce que ça veut dire, quand il a dit il y avait un continent caché, celui des violences faites aux enfants, et maintenant la parole est libérée. Il est à côté de la plaque, le président, ou pas?
Totalement à côté de la plaque. Comment dire que c'était un continent caché? Alors, pour revenir à la campagne que j'ai menée à Paris, j'ai parlé pendant toute ma campagne municipale de périscolaire parisien. J'ai tenté d'imposer ce sujet dans toutes mes interviews, à chaque fois que je prenais la parole. Et même quand on me disait « c'est pas le sujet », je disais « je veux y revenir ». Vous avez aujourd'hui dans le périscolaire parisien, et d'ailleurs toujours aujourd'hui, pendant que nous parlons, vous avez des animateurs qui n'ont pas été vérifiés. Vous disiez « certains ont le BAFA ». Parfois, on ne vérifie même pas qu'ils aient le BAFA et s'ils sont inscrits au fichier des agresseurs sexuels. C'est aujourd'hui pendant qu'on parle. Vous avez 70 affaires en cours. Dans les deux derniers cas qui ont été soumis devant la justice, on a vu les réquisitions, c'était du sursis. Un an avec sursis. Donc des gens qui seront libres, en liberté, qui n'auront rien. Pour des cas gravissimes. Alors, de pénétration d'enfants avec des cuillères, par exemple, le cas auquel je pense.
Vous savez, les réquisitions, ce sont juste des propositions qui sont faites par le parquet. Le tribunal peut très bien décider d'aller au-delà.
Puisqu'on parle du système de la justice, vous serez d'accord que des réquisitions appartiennent aussi à ce système judiciaire et qu'on est en droit de se poser la question de comment est-ce qu'alors qu'un... Pour moi, c'est le plus grave scandale pédophile du siècle qui est en cours en ce moment dans le périscolaire parisien. Donc dans des structures publiques, avec une responsabilité publique qui devrait être engagée, quelle est la réponse du maire de Paris? Je l'ai entendu avant-hier, peu de temps après que j'ai reparlé du périscolaire parisien, il a dit « J'annonce d'ores et déjà que j'irai au pénal contre tous ceux qui parleront de la responsabilité de la mairie de Paris. » Alors je l'invite à le faire contre moi, parce que je vais y revenir, il y a une responsabilité de la mairie de Paris. S'il veut porter plainte contre moi, qu'il le fasse. Madame... S'il tient davantage à sa réputation, qu'à la protection de nos enfants, qu'il le fasse. Il a été, monsieur Emmanuel Grégoire, qui a été élu à la mairie de Paris, il a été à la direction des ressources humaines de la mairie de Paris. Qu'il vienne nous faire croire qu'il n'a aucune responsabilité. Depuis 2015, vous aviez un rapport.
Il veut dire, c'est ses collaborateurs.
Un rapport,
c'est pas lui directement qui examinait les dossiers.
Oui, mais
qui est responsable?
Un
philosophe sait que le principe de responsabilité s'applique aussi à celui
qui est responsable. Il y a quand même une hypocrisie de toute la classe politique. Je parle de toute la classe politique, vous y compris, en ce qui concerne la lutte contre la pédocriminalité en France. Le sujet du périscolaire, ça fait 10 ans. Un enfant violé toutes les 3 minutes. Voilà. C'est un scandale sur lequel on se bat au quotidien, les associations, les éducateurs, depuis longtemps. Ce que je vous reproche, mais pas qu'à vous, à toute la classe politique, c'est que vous ne réagissez que lorsqu'il y a des scandales. Scandale du périscolaire, tout le monde devient expert. On a l'impression que tous les politiques sont experts sur la lutte contre la pédocriminalité. Affaire Liana, vous êtes expert. À la différence que votre parti, je me suis même dit, heureusement, et c'est cynique ce que je vais dire, hein, que Jérôme Barella n'était pas noir ou arabe, parce que sinon certains dans votre parti auraient parlé de francocide. Parce qu'on sait très bien qu'Éric Zemmour, il utilise le fait que l'islam n'est pas compatible avec la République pour taper sur du musulman.
Mélangez tout.
Ben non, je mélange pas tout, parce que c'est quelqu'un qui a quand
on
même dit
que... On parle d'islam, on parle de pédocriminalité, je suis en train de parler du périscolaire à Paris. J'aimerais qu'on parle des enfants.
Si vous n'avez pas compris, je vais réexpliquer. Vous réagissez à un scandale. Vous n'êtes pas engagé au quotidien sur la question, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas choqué. Évidemment que tout le monde est choqué. Mais je vous ai pas entendu parler. Éric Zemmour ne parle que d'émigration.
C'est faux.
Vous ne parlez pas de la pédocriminalité.
Qui parlait du périscolaire parisien?
Seulement pendant la campagne, après le scandale.
Et après le scandale. Mm-hmm. Qui en parlait?
Mais
qui
avant le scandale.
Qui d'autre? Je pose une
question. Tout le monde en a parlé après
c'est
le scandale.
Faux. C'est totalement faux.
Et bien sûr
et
que
pourquoi
si.
Vous dites après le scandale alors que le scandale est en cours? Vous êtes en train de faire de la politique, monsieur.
Je connais le sujet, pardon, je suis un peu plus sur le terrain en ce qui concerne ce sujet-là.
Alors attends, je peux vous dire
que vous êtes le seul à avoir le droit de parler. Les parents parisiens dont je fais partie n'ont pas le droit de parler parce que monsieur, vous êtes un expert.
C'est pas une question de ça. mais je pense que
les parents parisiens connaissent le sujet moins bien que vous.
Non, mais je m'y connais moins, un peu mieux que vous. Et juste pour finir, après, promis, je vous laisse parler. Ouais. Vous avez réagi dessus et vous avez même porté une parole très sensée. Ça, je ne le nie pas.
Merci,
mais
monsieur.
C'est quand le scandale a éclaté.
Merci, monsieur.
Or, ça fait plus de 10 ans que l'on se bat.
Je vais répondre. Pour le professionnel que vous êtes, moi, ça fait 10 ans, j'ai pas entendu parler de vous. Donc, vous devriez plutôt être content que des gens sur le terrain. Mais c'est ce que j'allais vous dire. C'est ce que j'allais vous dire. Si vous êtes sincère sur la question, vous devriez plutôt être content que d'autres voix se joignent à la vôtre, essayent de faire du bruit sur le sujet. Et comme je vous l'ai dit, à chaque fois que j'ai mis les pieds sur un plateau, j'ai essayé de parler de ce sujet du périscolaire parisien et j'ai tenté de l'imposer alors que personne d'autre ne voulait en parler. Et c'est faux de dire que tous les autres en ont parlé. Et c'est d'autant plus faux de dire après le scandale, parce que le scandale est en cours. Donc dire il faut réagir après des scandales et c'est ça qui pose problème. Mais vous avez raison. Mais monsieur, vous avez raison. Mais j'aimerais tellement qu'on puisse plutôt empêcher les scandales que venir dire sur des plateaux
qu'est-ce qu'on doit
faire maintenant. Choqué. Alors moi, ce que je propose, c'est un fichier public des pédocriminels condamnés par la justice. Que s'est-il passé?
Par qui alors?
Par tout le monde.
D'accord.
Que s'est-il passé aux États-Unis après le meurtre de Meghan, une enfant de 7 ans qui avait été tuée par un de ses voisins que les parents pensaient être un homme de confiance? Sa mère a dit: si j'avais su qui était mon voisin, ma fille serait encore en vie. Pourquoi? Parce que cet homme avait déjà été condamné 2 fois et qu'il était venu s'installer dans leur voisinage, qu'il accueillait des enfants chez lui, il faisait des goûters, tous les parents pensaient qu'il était sympathique et finalement, il a tué cette jeune Meghan. Après ce scandale, aux États-Unis, ils se sont dit, c'est vrai que les familles peuvent avoir le droit de savoir pour des pédocriminels qui sont condamnés, je précise, je ne dis pas qu'il faut mettre tout le monde dès lors qu'il y a le moindre soupçon, évidemment, mais pour des pédocriminels qui sont condamnés par la justice, qu'il y ait leur inscription sur un fichier avec leurs photos, avec les faits qu'ils ont commis, les crimes qu'ils ont commis, et que chacun puisse le consulter. Par exemple, un directeur de collège, ou alors une famille qui a un doute, quelqu'un qui doit embaucher pour sa colonie de vacances, vous en parliez tout à l'heure.
À condition que ce soit un métier lié aux enfants.
Pas forcément, non, non. Également les parents, pour ceux qui sont condamnés. Quand je vois aujourd'hui, on est dans une société de la transparence, et à certains égards, c'est très bien. Mais quand je vois qu'aujourd'hui, on a le droit, par exemple, de savoir la production carbone de n'importe quel produit qu'on achète, les ingrédients qui se trouvent dans chacun de nos pots de yaourt, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le droit de savoir qui est-ce que nos enfants fréquentent et si notamment une personne a été condamnée pour des faits de pédocriminalité? Je pense que s'il faut choisir entre la vie privée des pédocriminels et la sécurité de nos enfants, moi je choisirais plutôt.
Alors justement, l'avocat, alors, Maître
Pégan. Ça sous-entend quand même qu'on laisse les pédocriminels dehors et qu'il n'y a pas de...
Non, c'est
pas
Maître Pégan. Si vous voulez qu'on les enferme à vie, je serais tout à fait d'accord avec ça. Chimique aussi. Mais aujourd'hui, alors, voyez que vous avez des pédocriminels qui sont condamnés à 1 an avec sursis,
bien sûr.
Comment ce monsieur soit sur une liste publique?
Maître Pégan.
Alors, je pense, Madame Knafo, qu'il faut dépasser un peu le registre émotionnel, parce que bon, légiférer sur l'émotion, ça a jamais fait de bonnes choses. Maintenant, il faut qu'on soit dans l'évaluation des politiques publiques. Vous parlez d'un fichier public qui serait donc consultable par toute instance.
Par tout le monde public. Comme
sauf qu'aujourd'hui, vous savez qu'il y a un fichier qui existe déjà.
Le fichier, oui, et qui n'est pas.
Moi, je cherche juste plusieurs choses. Où est la cohérence juridique, parce que si vous voulez que ce soit uniquement sur des personnes qui sont condamnées pour des faits de pédocriminalité, pourquoi alors on mettrait pas dans ce fichier tout ce qui est auteur de violences conjugales, multirécidiviste, terroriste, etc. Donc pour moi, première question, pourquoi il y aurait pas une cohérence juridique et que ça engloberait plusieurs choses?
Parce que c'est pas pareil.
Bah tu laisseras peut-être Madame Knafo répondre à sa place, puisque c'est pas toi qui fais la proposition. D'ailleurs, ça serait peut-être intéressant. Deuxième chose, vous parlez de cette Meghan's Law, puisque donc vous inspirez du modèle américain, mais elle existe depuis 1996. Ce fichier existe depuis 1996, puisque cette affaire remonte à 1996.
Tout à fait.
Est-ce que aujourd'hui il y a assez de recul alors que ça fait 30 ans qu'elle existe?
Oui.
Est-ce qu'il y a assez de recul et est-ce qu'il y a des études qui sont faites sur le fait que ça a fait baisser la pédocriminalité ou les violences faites sur les enfants? Je ne crois pas. J'ai fait des recherches et j'ai bien vu que malheureusement, ça n'avait pas fait baisser. Donc vous vous inspirez d'un modèle américain qui finalement n'a pas porté ses fruits comme vous l'espériez.
Je vais vous répondre. On sait qu'il y a plus de 100 000 agressions sexuelles sur des enfants. On sait que beaucoup sont commises dans le cadre familial. Mmh. Donc, pour ces affaires-là, vous avez raison, c'est pas du tout le fichier public qui va pouvoir empêcher des agressions commises dans le cadre familial. En revanche, là où la société peut avoir un rôle, c'est d'empêcher qu'un enfant puisse croiser un pédocriminel notoire, par exemple sur le trajet de l'école, comme c'est le cas de Liana, ou par exemple dans l'enceinte de l'école, comme c'est le cas du périscolaire. Je finis juste sur ça. Dans ce cas-là, si on peut en éviter certains, vous avez raison, ce ne sera pas la majorité parce que la majorité, c'est le cadre familial. Si on peut en éviter certains, si on peut donner un outil qui va rassurer les parents, moi, je suis pour. Et je considère que c'est une bonne mesure et qu'il faut aller vers là. Aux États-Unis, quand vous avez eu l'affaire Meghan, beaucoup de parents se sont dit « J'aimerais pouvoir vérifier si quelqu'un sur lequel j'ai un soupçon appartient ou non à ce fichier. Ça peut aider, ça peut sauver des vies. La mère de Meghan a dit, ma fille sera encore vivante. Je pense que les parents de Liana...
Oui, mais ça n'aurait rien empêché
pour Liana. Je pense que les parents de Liana pensent aujourd'hui, là maintenant, parce qu'il n'était pas condamné.
Mais, ben voilà,
mais je pense qu'ils auraient aimé savoir
pas de procédure
qui c'était. Et le problème,
donc, votre
c'est
fichier,
précisément le problème.
Pas
alors là, j'en arrive, parce que vous avez parlé du Fijais. Et vous m'y faites penser. Sur le Fijais aujourd'hui, vous avez en effet un fichier qui n'est pas public, qui est, que les forces de l'ordre peuvent, auxquelles les forces de l'ordre peuvent accéder. Je propose que sur ce fichier, vous ayez également les procédures qui sont en cours. Pas un fichier public, encore une fois, c'est quand quelqu'un est condamné qu'il est sur un fichier public.
Je vous le dis, à partir du moment où vous êtes mis en examen, le magistrat instructeur a la possibilité de vous faire inscrire d'ores et déjà, alors que vous êtes juste au stade de la mise en examen, d'être inscrit dans ce fichier. Donc, ça veut dire que ça serait pour des procédures en cours.
Mais là, vous avez bien vu que, y compris dans ce fichier, il y avait toujours pas, on l'avait toujours pas, dans ce dossier, pardon, on l'avait toujours pas entendu. 9 mois après les faits, en août de l'année dernière, on apprend que ce monsieur, qui pourtant était un récidiviste, alors pas au sens pénal puisqu'il n'avait pas été condamné, mais dont on avait déjà des dossiers en cours, et pourtant il avait toujours pas été entendu.
Oui,
donc là, à la moindre ouverture, il faudrait qu'il puisse être inscrit sur un fichier auquel seules les forces de l'ordre ont accès.
Deux questions rapides pour terminer. Un, est-ce que la présidentielle de 2027, c'est le duel Mélenchon-Le Pen-Mardella inévitablement ou pas?
Non, je crois que rien n'est inévitable. En revanche, je pense que le clivage droite-gauche est en train de revenir en France, que le centre n'a plus rien à dire au pays. Quand je dis le centre, je pense à la Macronie et à ses héritiers. On les entend à longueur d'émission. Moi, j'ai le sentiment qu'ils ne disent rien, en réalité. On nous propose plusieurs candidats. Donc, on a une carte de restaurant avec 15 plats qui ont tous le même goût, tous la même saveur. On ne s'y retrouve pas trop. À l'inverse, la droite et la gauche, je crois qu'il y a un grand retour. Après une tentative, je dirais, par un duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, de sortir du clivage droite-gauche pour créer une sorte d'opposition qu'ils appelaient entre le bloc populaire et le bloc élitaire ou les mondialistes contre les patriotes. Ils voulaient imposer ce clivage en France, ils y sont parvenus pendant 10 ans, au profit d'Emmanuel Macron. Je pense qu'aujourd'hui, on est en train de sortir largement de ce clivage pour revenir à un véritable clivage droite-gauche. C'est-à-dire sur deux sujets. Le premier, je dirais, sur la question migratoire, avec une droite qui, de plus en plus, est coalisée autour de la volonté d'en finir avec ce modèle migratoire tel qu'on l'a accepté depuis les années 70 en France. Et deuxième point, et c'est pour ça que là je pense qu'on en est les meilleurs représentants, de refuser le socialisme économique, ce qui n'est pas le cas du Rassemblement National sur de très nombreux aspects, notamment fiscaux, de refuser le socialisme économique et donc de s'opposer à ces 50 nuances de socialisme qu'on retrouve donc, du centre jusqu'à la France insoumise.
Le Reconquête ne fera jamais alliance avec le Rassemblement National dans le cadre d'un, si jamais il y a une victoire.
Je pense que vous avez vu qu'on l'avait à de nombreuses reprises proposé en disant qu'il faudrait qu'on trouve un dénominateur commun. Ouais. Donc je pense toujours qu'il faut trouver un dénominateur commun et être capable de dire entendons-nous sur un programme minimal, c'est-à-dire si on fait alliance, n'augmentons pas les impôts, comme ils l'ont proposé lors du dernier budget, n'augmentons pas les dépenses publiques et au contraire, ayons un plan massif de baisse des dépenses publiques, arrêtons l'immigration, ça je pense qu'on sera peut-être d'accord sur certaines mesures et encore peut-être pas toutes, mais en revanche, qu'on arrive à trouver avec toute la droite et davantage avec tous les électeurs, et là ce sera le but de l'élection, de réussir à trouver une majorité pour réussir à gagner et demain, coaliser toutes les forces de droite, je l'espère, sur notre programme.
Et Bardella, Marine Le Pen, c'est la même chose?
Ça, eux seuls peuvent répondre, je dis comme vous la presse.
Vous êtes observatrice politique, vous pouvez répondre.
Alors moi, dans ce que je vois, c'est qu'il y a des divergences. Après, tous les jours, ils montrent leurs divergences et le lendemain, ils viennent nous dire il n'y a pas une feuille de papier à cigarette, il faut qu'ils se mettent d'accord entre eux. Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec la présidentielle qui arrive, ils seront obligés d'avoir un seul programme. Il n'y aura pas le programme de Jordan Bardella et à côté le programme de Marine Le Pen. Donc il y aura un seul programme, on pourra juger sur pièce et on regardera. En tout cas, nous, viendra la déclaration de candidature à la fameuse, on publiera un vrai programme chiffré, budgété. Chacun pourra se faire une idée. Là, ce sera clair.
Une dernière question, puisqu'il nous reste une minute. Vous avez été à Vivatech. C'est le salon.
J'y vais.
À Vivatech. C'est le salon des nouvelles technologies. Il va être beaucoup question d'intelligence artificielle. Ouais. Il y a une tribune qui est sortie, qui est signée par des écrivains, où il s'inquiète d'ailleurs
en disant qu'on
condamne un projet de société fondé sur la marginalisation de l'être humain. Il y a un philosophe, un chercheur aussi qui dans Le Point dit on va réfléchir à notre place et on va perdre nos capacités cognitives. L'IA, vous craignez l'IA ou pas?
Je leur souhaite pas de perdre leurs capacités cognitives. Manifestement, ce sont des gens qui sont intelligents, donc je comprends même pas qu'ils aient aussi peur de l'intelligence artificielle. Ça me fait un peu penser à vous savez, on parlait des ludites, ceux qui cassaient les machines dans les usines parce qu'ils avaient peur que les machines les remplacent. Et puis finalement, de très nombreux ouvriers, des syndicats aussi, se sont aperçus que la création création de ces machines, outils, les aider, rendait parfois les tâches beaucoup moins physiques, beaucoup moins difficiles à faire. Donc, finalement, il y a eu une sorte d'acceptation de ces machines. Moi, je regrette qu'aujourd'hui, on ait des écrivains qui devraient pourtant représenter la pensée européenne, occidentale, croire au progrès scientifique, à la modernité. Donc, plutôt se demander comment est-ce qu'on l'accompagne. Il ne s'agit pas de devenir techno-béat et de tout accepter en disant ça va être formidable et formidable pour tout le monde, non. Mais plutôt, comment est-ce qu'on, d'abord, je pense, garder une capacité d'émerveillement devant ces outils qui sortent de terre, qui naissent de l'intelligence occidentale, là encore, se dire mais c'est magnifique ce qu'on est en train de réussir à créer. En tout cas, moi, je trouve ça fascinant. Est-ce que ça veut dire que tous les points sont positifs, qu'il n'y aura pas d'enjeu sur l'emploi, que si on n'arrive pas à tout de suite prendre le pli, notamment sur les questions éducatives et universitaires, est-ce que ça signifie que tout sera parfait? Non. En revanche, ce qui est fait par la classe politique jusqu'ici, là, je serais d'accord, nous conduit à ne pas réussir à prendre cette révolution en marche et à en tirer tout le profit qu'on pourrait en tirer. J'ai publié un rapport sur la souveraineté technologique. J'avais été en charge de la souveraineté technologique au Parlement européen. J'invite chacun à aller voir toutes les propositions que je fais à ce sujet. C'est sur souveraineté-technologique.fr où je fais beaucoup de propositions, notamment sur comment est-ce que la France peut avoir le leadership sur cette question demain.
Merci Sarah Knafo. Allez, suite des GG dans un instant. Je rappelle, vous êtes députée européenne Reconquête. 150 euros d'amende si vous baladez torse nu dans les centres-villes de Narbonne. Les arrêtés anti-torse nu, ça va trop loin. 150 euros d'amende ou pas, vous venez en parler au 32-16. Il est 11h25. RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules. 1, 2, 3, 4.
Il est 11h30, vous êtes avec les GG, avec les Grandes Gueules, avec Jean-Loup Bonamy, avec Maître Sandrine Pégan et avec Abel Bouilly. 150 balles d'amende si vous baladez torse nu dans le centre-ville de Narbonne. Est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est trop? Vous venez en parler avec nous, 32-16. Zebda, vous vous souvenez? À Narbonne, c'est 150 euros. En fait, il y a une trentaine de communes en France qui, chaque été, reprennent à peu près les mêmes arrêtés municipaux, comme la Grande Motte. Alors, les réactions sont diverses à ce moment-là. C'est dire, bon, qu'est-ce que c'est qu'une tenue correcte exigée? En fait, c'est une discrimination physique. C'est-à-dire, si un mec avec bien fichu, passe torse nu, tout le monde va dire, ouais, pas mal. Vous savez, il a fini son jogging ou il sort de la plage.
Comme toi, quoi.
Et puis, ouais. Et puis il met le t-shirt, tu sais, sur l'épaule. On se dit c'est pas gênant.
Après, Dominique de Villepin en 2005, tu te
voilà,
souviens,
par
sortant
exemple,
des eaux.
Après si le type est un peu, bedonnant, quoi que ça, on dit ah cacher ce physique que je ne saurais voir. Puis alors on dit ah non ça c'est pas bon, on veut pas voir. Et donc finalement on se retrouve à coller une amende, une amende pour tout le monde. Alors se promener dans la rue quand il fait 30 degrés, qu'on est en plein été, au milieu d'une rue piétonne ou à côté de magasins, est-ce que c'est vraiment aussi gênant que ça? Est-ce que ça mérite une amende de 150 euros? Vous venez nous le dire au 32-7. Rentrer dans un magasin torse nu, ça se fait pas. Sur deux mois de l'année ou même un mois de l'année ou sur une journée, est-ce que vous trouvez ça franchement choquant? Vous venez en parler avec nous, Sandrine Pégan. Est-ce que ça mérite une amende de 150 euros?
Moi, j'adhère totalement à cette mesure parce que je ne suis pas du tout pour la pudibonderie. Je suis pour le savoir-vivre. Tu vois, je trouve que la liberté s'arrête, donc la liberté de porter ce que tu le souhaites, s'arrête là où t'as pas forcément envie de voir la marque de bronzage de l'autre. Donc moi, à partir du moment où tu ne respectes pas, d'autant qu'en plus là pour Narbonne, c'est simplement pendant 10 minutes, hein, parce que c'est au niveau du centre historique. Donc ça va, tu peux porter quand même un t-shirt pendant juste 10 minutes. Et puis je me dis que de toute façon, ça n'a rien à voir avec le physique. C'est juste que c'est une question de savoir vivre. Tu respectes les uns et les autres. Donc pour moi, je suis d'accord pour cette mesure. Et si t'es pas d'accord, eh ben tu critiques, tu vas devant le tribunal administratif puisque c'est un arrêté municipal.
Jean-Loup Bonamy.
Je n'ai pas d'avis sur le sujet, mais je pense qu'il y a d'autres priorités, et pour la France, et pour la mairie de Narbonne, que moi, à titre personnel, je ne me balade jamais torse nu, mais que je me moque complètement qu'il y ait des gens, tiens, hier, il y a un type qui...
Non, mais tu t'en moques, s'il y a un type qui passe corte...
Hier, il y a un type qui faisait son footing, j'avais un peu peur pour lui, parce que c'était la canicule,
oui, c'est vrai.
Il était 19h, mais il faisait encore très chaud, le soleil tapait encore très fort, non, c'est avant-hier, il y a un type qui est passé à côté de moi, qui était en short, torse nu, qui faisait son footing, ça me serait pas venu à l'idée de le signaler à la commandant tour pour qu'ils reçoivent une amende de.
Non, mais là, on parle du centre historique. Euros. On parle oui, du centre historique. Donc, voilà, où c'est quand même touristique. Et c'est juste.
Ouais, mais est-ce que c'est vraiment grave? Est-ce que c'est. Enfin, moi, je rêve de vivre dans un pays où on n'aurait tellement pas de problèmes que du coup, on pourrait s'occuper de mettre des amendes à des gens qui se baladent l'été par température caniculaire dans le centre-ville historique de Narbonne, torse nu, qu'on leur mette une amende. Mais je crois qu'il y a d'autres priorités.
Oui, mais bien sûr, mais à chaque fois, oui.
Et donc,
non mais ça ne te heurte pas du coup
qu'on... Bah, bien sûr que non que on... ça me heurte
tu
pas
te... Ah non mais si je vais au bout de ton raisonnement
moi, je
c'est même liberticide ou pas.
Oui non, j'ai mais pas c'est vraiment réfléchi mais ça me semble un peu puritain et peut-être oui en tout cas qu'il y ait une et oui ou tu vois ça pourrait être en deux temps, c'est-à-dire il y a un agent de police municipale qui croise parce que la personne.
Non mais c'est parce que Sandrine elle met ça sur le compte du respect du civisme, du vivre ensemble,
du savoir-vivre.
Je vais prendre un exemple, moi j'ai un exemple différent, mais j'ai vu les agents du service de sécurité de la SNCF dans le train, ils voient quelqu'un qui avait les pieds sur le siège d'en face, ils lui font un signe, la personne enlève ses pieds. Ça s'arrête là. Si jamais elle insiste, là, il y aura une amende. Ça peut être pareil, t'es un agent de police municipale, tu croises quelqu'un dans le centre-ville de Narbonne, hop, tu fais un petit geste, monsieur,
et c'est peut-être ce qui se passe aussi, c'est pas une automaticité de la contravention, c'est peut-être bon, monsieur, mettez votre t-shirt.
Détendons-nous, quoi.
Mais non, le centre-ville, c'est pas une extension de la plage, point barre, c'est tout.
Surtout, quand tu mets, toi qui es attaché au droit, quand tu mets une amende, c'est quoi l'enseignement, en fait? Quand tu mets une amende, tu sanctionnes, c'est-à-dire il y a un enseignement. C'est-à-dire que
non, t'as juste respecté le règlement.
En amont, on va se mettre à faire de la prévention pour que les gens ne se baladent plus torse nu lorsqu'il fait 40 degrés.
Ouais,
en réalité,
chaud,
même mais ça n'a rien à voir avec la canicule, la belle. Ça n'a rien à voir avec la canicule. C'est un arrêté qui est pris du 15 avril au 30 septembre. Mais non.
Mais les gens se mettent pas torse nu en hiver, Sandrine, quand même.
Non, mais toi, tu me parles de la canicule. La canicule, c'est pas sur 3 mois. Là, c'est sur un épisode de 3 jours. Là, l'arrêté municipal, il est sur simplement.
Si les gens se mettent torse nu, c'est quand même parce qu'il fait chaud.
Bah oui.
Bon. Et non, moi, et quand même dans les normes.
Eh ben alors, je vais me promener les seins nus.
Ça varie.
Je vais
selon...
me promener les seins nus parce que du coup, il fait trop chaud. Donc ça sera la même chose. On criera au scandale.
Ça varie selon les cultures. En Syrie, par exemple.
Oh mon Dieu, mais c'est pas
les mêmes normes culturelles. Ce ne seraient pas les mêmes normes culturelles. Mais
fou,
il se trouve que chez nous, je crois que être torse nu n'est pas impudique. Les boxeurs, par exemple, sont torse nu.
Ils sont sur un ring. Oui, ils sont dans un camp. Entraînement, ça n'a rien à voir. Ça se voit que tu fais pas de sport.
Impudique. Ce qu'il faut couvrir, voilà, c'est la zone du short, et qu'autrement, être torse nu. Moi, je me mets jamais torse nu, mais ça me dérange pas qu'il y ait des gens qui soient torse nu ou dans l'espace
avec,
public.
Avec leurs poils là. Quoi.
Ah oui, donc
c'est
bah, oui.
esthétique en fait.
Non, mais c'est tout un ensemble, ça n'entend. C'est vraiment le savoir vivre ensemble, et c'est le fait de respecter l'autre.
Je peux raisonner par l'absurde.
Attention.
T'as Brad Pitt qui passe dans le centre de Perpignan, centre-ville.
Pareil, je pense la même chose. Je veux pas le voir torse nu, simplement en privé.
On y croit.
Bien sûr. Il est un peu vieux. Hein.
Hey,
pardon, il est un peu vieux. Excusez-moi, il a 60 ans maintenant. Hey, je voudrais un peu plus jeune.
On va retrouver Francky qui est à la Seyne-sur-Mer, qui est fonctionnaire. Bonjour Francky.
Salut les grandes gueules.
Bon, c'est vrai que on en sourit, on en rigole, mais on prend quand même des arrêtés municipaux et il faudra que la police municipale fasse usage à ce moment-là de son carnet à souche, de sa verbalisation. Bon, est-ce qu'à votre avis, c'est liberticide? Est-ce que c'est normal? Est-ce que ça va trop loin? Qu'est-ce que vous en dites, Francky?
Non. Moi, je trouve pas ça normal qu'on se balade en torse nu. Nous, dans le Var, on a Georges Clooney, hein. Donc,
je vous aime, Francky.
C'est vrai.
Donc, ça pourrait être sympa, mais non. Mais faut simplement se dire une chose, c'est que chez nous, 7-8 mois par an, on peut se balader en torse nu. Il fait super beau, hein. Et le problème, c'est qu'on a énormément de tourisme. Si tout le monde commence à se mettre en torse nu, je vois des gens à l'arrêt de bus en torse nu. Non, mais c'est pas possible. Hygiéniquement, c'est pas possible. Les gens vont rentrer dans le McDo demain en torse nu. Il va falloir se discuter avec eux, mettre des vigiles pour une raison de bon sens et surtout d'éducation. Enfin, voilà. Donc, il y a un lieu pour ça. C'est la plage. On se met dans la flotte, la piscine et compagnie. Après, on s'habille. Sinon, c'est
la porte ouverte à toutes les fenêtres. Non, mais c'est pour ça, Franck, qu'il faut faire la différence entre entrer dans un magasin, entrer dans un restaurant ou ça.
Ouais.
C'est pas tolérable. Et puis le fait de peut-être faire 200 mètres, 300 mètres ou traverser une ville en étant torse nu, une ville en plus là, c'est pas la même chose et ça concernera peut-être 10 personnes.
En général, ce sont souvent
des jeunes, des ados.
Exactement.
Ils sortent de la plage, ils mettent le t-shirt sur l'épaule,
sont en chaussettes,
viennent faire son jogging. Bon voilà, est-ce que ça mérite un arrêté municipal? C'est la question.
Je pense qu'il faut prévenir parce que c'est pas 200-300 mètres. Moi, je suis désolé. Il y a des gens qui sont loin de la plage et qui sont dans des villes. On est là.
Exactement.
ville, même à Toulon, au centre-ville, en train de faire une petite balade avec les gamins, manger des glaces, et on voit des gonzes pleines de sueur, dégueulasses, là. Enfin, c'est pas possible. Faut que ça s'arrête. C'est pas une histoire de vue, hein. C'est vraiment une histoire d'hygiène. Ça pue, hein, la sueur, hein. Donc,
on est d'accord.
Voilà. Un minimum.
Il y a des codes de vie en société.
Ce que j'espère voir, je serai admiratif de voir des gens torse nu en décembre, en janvier. Ça montrerait vraiment que la résistance mentale du peuple français, tu vois, ça vraiment, c'est ce que moi je rêve.
En Syrie, peut-être ils le font, non?
De voir des gens, non, vu la température, du coup, ça n'aurait pas vraiment de sens. Non, moi, ce que je veux, c'est vraiment dans les périodes de grand froid, de neige, tu vois, vraiment comme Rocky, bon, qui n'est pas torse nu, mais qui fait son jogging, tu sais, là, dans la neige, voilà.
Rocky Balboa.
Et exactement, Rocky 4.
Merci Francky.
C'est ça qu'on veut.
Oh, j'adore. On vous l'a jamais fait en plus, j'imagine.
Merci. Cadeau.
Salut Francky. Bonne journée. Dernier sujet de discussion dans un instant. On a posé la question, 150 € d'amende si vous êtes torse nu en ville. Francky dit normal, les pulls à sueur et autres, on peut pas. Ils mettent un t-shirt ou une chemise comme Sandrine Pégan. Ben vous dites normal à 73%.
Et ben voilà.
Allez, dernier sujet de discussion dans les GG dans un instant. Après l'affaire Liana, le scandale du périscolaire, les parents réticents à mettre leur enfant dans les colonies de vacances. Peut-être vous en faites partie, est-ce que vous le comprenez? C'est au 32-16 que ça se passe. RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
C'est au 32-16 toujours que vous prenez la parole, que vous venez discuter avec les GG, avec les Grandes Gueules, avec l'éducateur Abel Bouilly, Maître Pégan, l'avocat, Jean-Loup Bonamy, le professeur de philosophie, notamment pour tirer les conséquences toujours du scandale autour de la pédocriminalité, des agressions sexuelles sur les enfants. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un constat qui est fait, celui d'avoir confiance encore dans les centres aérés, les colonies de vacances. Certains organismes privés l'ont dit d'ailleurs, hein, ils constatent là depuis quelques jours, quelques semaines, ils ont constaté une baisse des réservations, des demandes de séjour. Alors elles sont pas importantes, mais elles sont quand même significatives, c'est 5, 7, 8%. Donc ça dénote quand même de quelque chose. Les mairies qui organisent les colos aussi, bah, elles reçoivent des mails, des courriers, des demandes, des précisions pour savoir comment sont recrutés les animateurs. Est-ce qu'ils sont là depuis longtemps? Quel âge ont-ils? Que font-ils? D'où viennent-ils? Combien d'animateurs y aura-t-il par enfant? Est-ce que c'est une majorité d'hommes? Est-ce que c'est une majorité de femmes? Alors, est-ce que c'est compréhensible ou pas, Jean-Loup Bonamy?
Oui, c'est assez compréhensible, enfin... Mais tu sais, on nous parle beaucoup, là, justement, tu évoquais le périscolaire, on nous parle beaucoup de la réinsertion, de manière générale, de la réinsertion des criminels. Ben, en tout cas, je pense que pour le sordide Jérôme Bahala, il n'y a pas de souci à se faire, puisqu'il a le CV désormais pour candidater comme animateur dans le périscolaire parisien. Alors, on pourrait penser que c'est une plaisanterie de ma part, mais hélas, non. Parce que quand tu regardes le réel, quand tu vois le CV, les affaires dans lesquelles certains sont impliqués, quand tu vois que un animateur, par exemple, qui a été mis en cause clairement et pas blanchi dans une affaire de viol sur un enfant de 3 ans, il a été maintenu dans le périscolaire et on l'a simplement changé d'école. Et c'est ubuesque, c'est lunaire. Et on l'a mis en contact avec d'autres enfants. Alors, moi, je veux bien un animateur qui est accusé de viol. Ça ne veut pas forcément dire qu'il est coupable. Enquête, accusé. Enquête, présomption d'innocence. Mais le bon sens de base, c'est que tout le temps de l'enquête, tu ne le laisses plus en contact avec des enfants, puisqu'il y a suspicion. Donc vraiment, tu l'écartes des enfants et de ce type d'activité. Et s'il est condamné, il ne doit plus jamais être en contact avec des enfants. Or, ce n'est absolument pas le cas. On voit des gens qui sont accusés et qui sont maintenus en contact avec des enfants. On a eu également le cas d'un enseignant, là, qui en collège était accusé de viol sur des jeunes filles. Il s'est reconverti comme éducateur auprès de personnes handicapées. Et dans les personnes handicapées, il y avait des personnes handicapées mineures. Donc, on est quand même vraiment dans une situation...
Donc, on comprend l'inquiétude des parents.
Bien sûr, on comprend, parce que le problème, c'est pas... seulement les viols sur les enfants qui malheureusement ont toujours existé, mais c'est la gestion catastrophique du dossier qui heurte le bon sens le plus élémentaire. Et c'est ça qui inquiète. C'est-à-dire, non seulement il y a des viols, bon, ça, ok, c'est un risque terrible, mais qui existe et qu'on connaît. Mais en plus, c'est que l'État qui est censé protéger ne protège pas et agit de manière irrationnelle.
Paul, bonjour.
Bonjour.
Responsable d'accueil collectif, est-ce que vous sentez cette défiance, cette méfiance aujourd'hui des parents?
Oui, forcément, on le ressent quotidiennement dans nos différentes structures, pardon. Et ça, malheureusement, on ne peut pas, vu les faits et vu ce qui est de plus en plus discuté de manière globale, on peut pas leur en vouloir par rapport à tout ça. N'étant pas parent, mais je peux un temps soit peu essayer de me mettre à leur place. Forcément, ça m'inquiéterait par rapport à tout ça.
Mais aujourd'hui, vous faites davantage attention pour les recrutements et autres ou pas?
Alors, c'est toujours pareil, c'est quels sont les moyens en tant qu'employeur, on peut avoir à notre disposition par rapport à tout ça. Il y a déjà quelque chose qui est, enfin, de manière générale, qui est très peu dit, c'est que toutes les affaires qui sont évoquées de manière un peu globale sur les différents plateaux, on parle uniquement de structures qui sont déclarées auprès de Jeunesse et Sport. Et donc du coup, ces structures-là ont des contrôles en amont sur les casiers judiciaires que du coup Jeunesse et Sport fait. Il y a énormément de structures au global qui, elles, pour le coup, ne sont absolument pas déclarées auprès de Jeunesse et Sport et qui sont exactement uniquement soumises à un extrait de casier judiciaire classique lambda comme vous et moi on pourrait sortir, qui n'est absolument pas représentatif d'un potentiel passé et action passée qui serait pour le coup très grave. Et ça.
Mais vous n'avez pas accès aux fichiers, vous n'avez pas accès à quoi que ce soit.
Absolument pas. On est soumis à la bonne volonté en fait, de la personne.
Voilà. Alors, ça complète pour un élargissement de l'accès aux fichiers.
Ouais, bien
ça.
Sûr.
C'est ça, c'est que en l'occurrence, nous, on demande les casiers judiciaires que les personnes fassent leur demande, ils nous le donnent. En général, on demande à ce qu'il date de moins de 3 mois, mais sur ce casier judiciaire-là, en question,
il y a très peu de choses qui sont
données. C'est ça. Et par contre, effectivement, l'accès au B2 et au B1, c'est ça, sont pour le coup, ces accès-là sont réservés du coup aux services Jeunesse et Sport et qui eux pour le coup font ces vérifications là pour nous, mais uniquement pour les structures déclarées. Si ma structure n'est pas déclarée parce que diverses raisons, choix politiques, de la collectivité, etc., qui met à dispo par exemple une salle des fêtes ou ce genre de choses pour un accueil le midi ou le soir, l'accueil n'a pas besoin d'être déclaré. Et ben là, en l'occurrence,
donc là il peut y avoir une faille quoi à ce moment là c'est
très clairement
bien sûr.
Très clairement, et quand bien même parfois, pour le coup ça m'est déjà arrivé, quand bien même c'est des structures déclarées, la personne est bien déclarée sur la télétransmission du coup de Jeunesse et Sport, la personne est vérifiée, c'est validé, et on se retrouve 3-4 mois après, finalement sur une autre vérification, sur une mise à jour du coup de cette télédéclaration, finalement en fait la personne n'est pas apte à travailler avec les enfants, sauf que cette personne ça fait 3-4 mois.
Et que vous ne le saviez pas. Justement, Abel, qu'est-ce que tu en dis?
Je suis tout à fait d'accord. De toute façon,
tu comprends la méfiance des parents aujourd'hui.
On ne peut pas en vouloir aux parents. Et ce qu'il faut réaliser, c'est que t'as une partie des parents qui est bouleversée par ce qui se passe. Ça fait bientôt un an que la pédocriminalité occupe l'espace médiatique quasiment quotidiennement. Et c'est une bonne chose. Mais le nombre de parents anciennes victimes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça fait remonter en fait des émotions à des millions de parents qui se rappellent de ce que ils ou elles ont vécu et qui se disent « je ne veux pas que mon enfant vive la même chose », sans compter les familles où on peut savoir que c'est un petit peu dysfonctionnel. Donc il y a une sorte de confusion aussi dans laquelle la société française est en train de rentrer par rapport à la lutte contre la pédocriminalité. Donc on ne peut pas jeter l'anathème sur des parents qui s'inquiètent et qui se disent « je vais
un petit peu » Et qui demandent toutes les garanties possibles.
Oui, mais bien entendu.
Mais comme le dit Paul, il y a un moment, tu peux pas les donner.
Mais Mais vu qu'en France, on prend toujours les choses avec du retard, la pédocriminalité, ça fait des siècles que ça existe en France, quoi. Ça n'existe pas que depuis le scandale du périscolaire et dans des proportions qui sont très importantes et ça existe sur toute la surface de la Terre, malheureusement. Mais comme on a une classe politique qui a mis du temps à prendre vraiment conscience qu'il fallait travailler dessus, ben, on a du retard. Donc, en fait, tous nos systèmes est percé et les pédocriminels ont encore de beaux jours devant eux, mais c'est la réalité. Mais bien sûr que
c'est la réalité.
On va voir sur le darknet
discussions, mais j'en conviens avec toi, Bill.
Ils sont déjà en train de s'organiser pour anticiper le coup d'après.
Moi, je dis juste qu'il faut refuser de vivre dans la peur. Bien sûr qu'il faut faire la part des choses. Bien sûr que la confiance n'exclut pas le contrôle. Maintenant, de là à ne plus envoyer tes enfants en colis de vacances parce que potentiellement, il y a peut-être un animateur, etc. Bah, tu poses des questions et on n'a pas attendu l'affaire Liana pour, en tant que parent responsable, de s'intéresser à savoir qui allait entourer les enfants. Donc voilà, si à chaque fois, il faut qu'on vive dans la peur, ah non, maintenant, on ne fait plus rien et que c'est une réalité dérangeante avec l'affaire Liana.
D'accord, mais sauf que les exemples de ces dernières semaines, ces derniers mois ne plaident pas en faveur de la confiance.
Et en plus, si attention.
C'est ça le souci. Jean Loulet les a rappelés. Puis on a encore eu le cas là d'un homme qui avait été qui a été recruté alors qu'il avait été condamné pour inceste.
Et voilà, non mais c'est délirant quand même. Donc,
Mais tu contrôles, tu veux dire.
Du coup, faut pas s'étonner derrière si tu veux. Ah, oui. On demande la publication du nom des pédocriminels une fois qu'ils ont été condamnés.
Ou qu'on demande d'avoir un
travail. Une fois qu'ils ont été condamnés, mais tu sais très bien qu'aujourd'hui la justice. Mais ça prend des années avant qu'il y ait une condamnation définitive. Donc avant qu'il y ait une inscription sur ce fichier. Donc en attendant, la personne elle peut très bien commettre encore ses faits. Donc là, ce que je veux dire, c'est
qu'il faut éviter de la recruter dans des endroits où
il y a des enfants.
Ça
serait de bonne alloi.
Parce que tant que ça arrive aux autres, on ne réalise pas. Et quand ça nous arrive à nous ou à nos proches, c'est là qu'on prend le
risque. Merci à Paul qui aura conclu notre discussion. Merci à tous. Est-ce que vous allez confier vos enfants cet été? C'est la question qu'on a posée sur les réseaux sociaux à travers les scandales, les drames, tout ce dont on a parlé. Ou est-ce que vous êtes méfiant? Vous êtes méfiant, vous dites non, on ne les confiera pas, à plus de 77%. Allez, la discussion, le débat, ça continue sur RMC, RMC Story, avec Estelle Denis. Bonjour ma chère Estelle.
Salut Alain,
sympa
salut.
Pull orange.
Qu'est-ce qu'il y a?
Sympa ton pull orange.
Mais tout à fait, c'est comme la vigilance canicule, un petit peu partout en France. Un Français sur deux, tiens. Sous vigilance canicule orange, on va en parler évidemment dans Estelle Midi. Est-ce qu'il faut vivre à l'espagnol, c'est-à-dire adapter les horaires, tout climatiser, faire la sieste? On se posera cette question dans un instant. On parlera également de la tribune d'un collectif qui appelle à boycotter l'IA parce que c'est un désastre écologique, c'est une paresse intellectuelle. Est-ce que vous seriez prêt aujourd'hui à vous passer de l'intelligence artificielle? Ça, on en parlera à midi et demi. On parlera également de cette nouvelle qu'on a appris là il y a un peu plus d'une heure. Achraf Hakimi, le défenseur du Paris Saint-Germain et capitaine du Maroc, renvoyé en procès pour viol. Est-ce que le Paris Saint-Germain doit continuer à le faire jouer? Achraf Hakimi, on sait que son procès aura lieu dans quelques mois. Est-ce que d'ici là, il peut encore porter le maillot du PSG? On se posera la question.
On verra si des féministes vont manifester devant le Parc des Princes ou le camp des Loges.
On aura Emmanuel Dancourt dans un instant, qui est présidente de MeToo Media. On verra si des choses sont prévues.
Sinon, présomption d'innocence pour Achraf Hakimi, comme pour d'autres personnalités.
Voilà. Exactement. En tout cas, c'est la question qu'on se posera à 13h30. Et puis... payer à l'avance au resto, chez le médecin ou chez le coiffeur, bonne ou mauvaise idée? Il y a
très
plein
bonne
rendez-vous
idée.
Non
en Suède, c'est comme ça.
Moi, tu sais déjà à l'avance que tu vas manger?
Je suis allé. Non, mais tu payes au moment où tu commandes. Et après, tu reprends un autre truc.
Si t'es un groupe de 8, tu dis par exemple, c'est 10 euros par personne en acompte, tu vas manger pour plus de 10 euros. Et si tu viens pas et que tu ne viens pas.
Ah oui, c'est autre chose, ça c'est la réservation.
Oui, ça c'est pour les no-shows.
Je suis allé en Suède aussi.
On paye au moment de la commande.
Tu commandes, tu dis voilà, telle entrée, tel plat, tel dessert, et puis on prend une bouteille de vin. Le gars te dit ok, puis il sort son terminal et tu payes tout de suite.
Et ça gagne du temps.
Oui, mais là l'idée c'est d'éviter les rendez-vous non-shows.
À la Reza.
C'est d'éviter les no-shows.
C'est pour éviter
des arts.
Oui, on appelle les no-shows. Les no-shows, exactement.
Allez, bonne émission avec
Estelle. Tu préfères
Mash ou iceberg?
Ah, les salades.
Mais oui.
La mâche.
Mâche.
Évidemment.
Non, elle n'est pas très salade.
Non, je suis pas très salade.
Elle est 32-16 pour. Sinon, la meilleure des salades, c'est le mesclun.
Oui, le mélange. Le mesclun. Tout à fait. Le florilège.